J'aimerais que ce matin, nous puissions lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, versets 37 à 39, et j'ai titré ce message « Des fleuves d'eau vive et trois points de suspension ». Parce qu'il y a plus, hein. Des fleuves d'eau vive, voilà, trois points de suspension. Lisons ce texte de la parole de Dieu, texte simple, hein, de la vie et du ministère de Jésus. Alors, tout, chaque mot est important. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Amen. Amen. Un texte qui se situe donc dans un contexte, le contexte d'un jour, d'une des sept fêtes que Dieu avait prescrites à Israël. Dieu est un Dieu de joie, Dieu est un Dieu d'abondance, et lors de ces fêtes, eh bien, la joie, l'allégresse, eh bien, habitait le peuple d'Israël dans sa vie spirituelle, dans sa vie sociale. Et cette fête avait été donnée pour que le peuple puisse louer, puisse être dans la joie, puisse être un peuple d'adorateurs du Dieu vivant. Et ces fêtes étaient quelque chose d'extraordinaire que Dieu avait ordonné à Israël. Et ici, la fête dont il est question, c'est la fête des tabernacles, qui est aussi appelée la fête des semaines, ou la fête des huttes, ou encore la fête des cabanes. Et c'est une fête qu'on célébrait dans le souvenir de ce que Dieu avait fait pendant l'errance, les 40 ans d'errance dans le désert du peuple d'Israël. Et nous savons qu'il avait pourvu miraculeusement, nous savons qu'il avait gardé son peuple malgré cette désobéissance qui les avait conduits au désert, il les avait gardés, il les avait protégés, il avait manifesté sa vie, il avait manifesté les miracles de sa puissance pour eux, pour les secourir et pour leur démontrer toute sa divinité et combien ils avaient raison de l'avoir choisi comme Dieu. Alors, en souvenir de cela, au cours de cette fête, certains se fabriquaient des huttes, d'autres des cabanes, pour se rendre, eh bien, jusqu'à la source de Guion. Ils faisaient cela, ils se construisaient des huttes, des cabanes, et ils se rappelaient ce que Dieu avait fait pour le peuple quand il errait dans le désert. Et en même temps, eh bien, ils habitaient ces cabanes, ces huttes, pour se rappeler, eh bien, qu'ils avaient à jour campé. Hein, vous rappelez quand il y avait la colonne de nuée, et quand il y avait, eh bien, la colonne de feu, et puis que quand le Seigneur le disait, eh bien, il fallait lever le camp, et puis quand il le disait, il fallait, eh bien, camper, s'arrêter, faire des haltes. Et il y a eu toutes sortes d'étapes dans le désert qui ont jalonné le parcours du peuple d'Israël. Chaque jour, une procession solennelle partait du temple de Dieu pour se rendre jusqu'à la source de Guion. Et à cette occasion, il y avait un sacrificateur qui remplissait d'eau une cruche en or. Et tandis que la chorale chantait Ésaïe chapitre 12, verset 3, que je pense nous avons mis juste après, voilà, où Dieu dit « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Et il est dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et le verset central ici, c'est, vous puiserez de l'eau avec joie, avec allégresse, aux sources du salut. C'est une promesse du Seigneur et il la chantait pendant cette procession solennelle. Nous trouvons dans Ésaïe chapitre 58, verset 11, un autre passage qui nous encourage où le Seigneur dit dans sa parole, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voilà ce qui était chanté ou proclamer pendant cette fête. Quelle promesse ! Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Qui n'a pas connu la sécheresse de son âme ? Qui n'a pas connu des moments de désert ? Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est une promesse de renouvellement constant, de renouvellement permanent, de fraîcheur permanente que Dieu nous fait dans ce passage. Puis on revenait à l'autel pour y verser de l'eau. Et ce rituel rappelait l'eau qui avait jailli du rocher pendant qu'ils erraient dans le désert également, quand Moïse a frappé le rocher et que l'eau a jailli du rocher. Et cette promesse concernait bien entendu la venue du Messie, la venue de Jésus. Donc il nous est dit que c'était le septième jour, et le septième jour était le grand jour, c'était un jour solennel, c'était le dernier jour de la fête. Et Jésus se tient debout, alors qu'habituellement les enseignants, les rabbis, les rabbins, eh bien se tenaient à ce moment-là plutôt assis pour enseigner. Lui, il se tient debout pour marquer ici encore une différence. La différence, c'est qu'il établit une nouvelle alliance et il veut eh bien que son peuple soit à l'écoute. Et bien des fêtes religieuses, bien d'autres choses aussi ne nous donnent pas la satisfaction escomptée. Et le Seigneur savait que le peuple d'Israël célébrait la fête, mais que parfois son cœur n'était pas avec Dieu. Et nous sommes aussi parfois de ceux qui participent à des fêtes religieuses qui ne nous apportent rien. Elles ne comblent pas notre cœur. Parfois, nous pouvons même participer à la louange sans être vraiment dedans, sans que ça satisfasse notre cœur. Il se peut même que notre vie chrétienne, elle soit routinière et qu'elle ne nous apporte pas l'effervescence que nous aimerions avoir. Elle ne nous apporte pas l'enthousiasme que nous désirons plus profond de notre cœur et encore moins la satisfaction d'un cœur et d'une âme comblée qui attend à ce que cela soit une réalité. Alors nous allons donc parler ce matin de la proposition que nous fait Jésus pour notre vie. Il nous apporte l'eau de la vie gratuitement, l'eau du ciel, l'eau de sa présence, l'eau de son trône, l'eau du lieu où il habite. Et nous allons voir ce qu'apporte cette eau. L'eau vive, déjà elle est gratuite, prenez de cette eau gratuitement, dit l'Apocalypse. Et c'est là que Jésus intervient et qu'il propose cette source d'eau de la vie. Il la propose à ceux qui sont des assoiffés, qui ont soif. Et si effectivement notre âme est dans les lieux arides, si notre âme connaît l'aridité, si notre âme connaît la sécheresse, si nous languissons après la présence de Dieu, eh bien, il est là pour nous donner de cette eau de la vie qui vient de son esprit, qui vient de son trône. Et Jésus sait que les hommes, les femmes de ce monde ont soif de vie, ont soif de la vraie vie, ont soif de la vie du Créateur, consciemment ou non. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup font tout dans la vie pour rencontrer ce qui va combler leur soif. Alors certains même trouvent cela dans l'alcoolisme, parce qu'au fond, avoir soif et boire, ça peut sembler être une illusion pour voir étancher sa soif. Et certains s'endorment, s'anesthésient avec l'alcool pour ne plus subir les affres de la vie, pour ne plus subir le poids de la vie, d'une vie qu'ils n'ont pas forcément aimée ou même choisie, parce qu'ils n'ont pas encore eu le choix. Et d'autres, eh bien, choisissent les plaisirs sans frein. La drogue, une sexualité effrénée, exacerbée, une vie dissolue, la vie dans les fiestas, les fêtes, les discothèques, toujours être entouré d'amis. Vous connaissez ces artistes qui sont toujours entourés d'amis, ils ne savent pas vivre seuls. D'autres ont toujours besoin d'un écouteur parce qu'ils ne savent pas supporter leur propre présence ou tout simplement ce que leur dit leur conscience. D'autres, eh bien, sombrent dans l'occultisme, dans l'ésotérisme, des dérivés pour, eh bien, essayer de trouver ce qui va désaltérer leur soif sans pour autant jamais rencontrer cette désaltération. Ou parfois, ils sont pour un temps dans une certaine illusion parce que ça semble marcher, ça semble faire effet, mais pourtant, ce n'est pas le cas. Leur vie ne change pas, leur vie n'est pas transformée par ces choses extérieures à eux-mêmes. Et pour les gens plus croyants, eh bien, on peut sombrer dans la religiosité, dans des rites. D'autres ont des tendances à l'orientalisme. Beaucoup aujourd'hui prônent le yoga, sans se rendre compte que ces pratiques viennent de religions orientales, de l'hindouisme, du bouddhisme. Certains pratiquent la méditation transcendantale, d'autres la sophrologie. Toutes ces pratiques sont pleines de dangers parce qu'elles dépendent de religions qui viennent de l'Orient et qui ont montré leurs preuves dans ces pays où elles sont pratiquées, où il y a la pauvreté, la misère, l'esclavage, toutes sortes de démons qui emprisonnent et enchaînent des hommes et des femmes dans leur pays, mais surtout dans notre pays où on donne une certaine culture occidentale à ces choses, où on se paye le luxe de pouvoir eh bien, avoir ces pratiques, alors que dans les pays où ils ont lieu ces pratiques, eh bien, c'est la misère. On se paye ce luxe-là, mais tout cela entraîne des dépendances psychiques. Le yoga, la sophrologie, toutes ces choses-là entraînent eh bien, qu'on veut faire le vide dans sa tête. Et quand on fait le vide dans sa tête, j'ai fait des arts martiaux, on nous demandait de faire cela, et j'ai été protégé de cela avant ma conversion, je ne l'ai pas fait. Certainement parce que Dieu ne voulait pas que je le fasse et il m'a protégé avant même que je me convertisse. Nous devenons passifs quand nous faisons le vide. Et cette passivité permet à des esprits mauvais d'entrer et de faire des choses dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur. Le fait d'être passif, nous ne devons jamais accepter d'être passif au niveau de notre esprit. Nous devons penser, nous devons réfléchir. Faire le vide n'enlève pas le stress, ça c'est une illusion. Plus grand pourrait être même le stress si nous faisons le vide et qu'après nous nous réveillons de cette tendance qui nous plonge dans une certaine hypnose. Toutes ces pratiques, yoga, méditation transcendantale, sophrologie, amènent avec elles eh bien, l'hypnose, l'auto-hypnose même. Et ça entraîne une passivité, une dépendance psychique. Et on touche même à l'occultisme à travers cela. C'est un moyen perfide, un moyen sournois que l'ennemi a pour nous faire toucher à l'occultisme, mais d'une manière détournée. Des gens qui ont pratiqué ces choses et qui sont chrétiens aujourd'hui en parlent dans des livres et nous mettent en garde. Et au fond, se tourner vers ces choses-là, c'est nier que Jésus puisse faire quelque chose pour nous. C'est nier qu'il y ait de la puissance dans l'Évangile pour nous apporter la vie. Or, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et dans le salut, vous avez bien sûr le pardon des péchés, le don de la vie éternelle, mais vous avez la guérison intérieure, vous avez le repos. Tout est un package qui nous est offert gratuitement par le Seigneur. Et se tourner vers d'autres choses, c'est mépriser l'Évangile que Jésus nous a donné. C'est mépriser la bonne nouvelle. C'est mépriser l'œuvre de la croix que de se tourner vers d'autres choses. L'eau vive que Jésus propose, elle est pour ceux qui ont véritablement soif de lui. Soif de Dieu. C'est la réponse de Dieu, c'est la réaction de Dieu au soupir de ceux qui, comme le psalmiste, dans le psaume 42, verset 1, disent « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Vers qui ton âme soupire-t-elle? Vers les religions de l'Orient? Alors tu seras prisonnier de démons, si cela t'intéresse. Vers quoi ton âme soupire-t-elle? Les plaisirs de ce monde? Tu ne seras pas rassasié, tu ne seras pas désaltéré. Si ce sont des choses extérieures vers lesquelles ton âme soupire, tu ne connaîtras pas l'irrigation que tu pourrais avoir sur ton âme desséchée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, disait le psalmiste. Et Jésus a promis dans son sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, verset 5, « Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits, pleinement rassasiés. Comme il l'a promis, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. » Tout cela est conditionné par le fait de croire dans l'œuvre de Jésus, par le fait de suivre Jésus, par le fait d'obéir à Jésus. Toute désobéissance dans la marche avec Jésus nous entraînera loin de ces courants d'eau, loin de cette force qu'il veut nous donner, loin de cette joie de vivre qu'il veut nous donner, loin de cette plénitude de vie qu'il veut nous apporter, loin de ces courants rafraîchissants. Il nous faut aussi obéir à Jésus-Christ et marcher avec lui et aspirer de toute notre force à vivre comme Dieu le demande. Et la promesse est là, car ils seront pleinement satisfait, pleinement rassasié. Le seul qui puisse désaltérer notre âme, c'est Jésus. Combien les gens ont facile à croire en des bêtises, en des choses stupides, mais combien il est difficile pour eux de croire et de suivre Jésus qui propose pourtant ce qu'il y a de meilleur. On est effaré quand on voit combien même les croyants, des fois, se tournent vers des choses stupides, effarantes, et ne viennent pas à l'Évangile, qui est la pure vérité. Jésus est venu pour révéler à notre âme son réel besoin. Ton réel besoin, c'est d'avoir Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie. Voilà ton réel besoin. C'est lui qui peut combler le vide. C'est lui qui peut rassasier ton âme. La soif de l'intellect, de connaître et de comprendre les vérités de Dieu, elle est satisfaite, elle est rassasiée au moment même où on vient à Jésus. La deuxième chose, c'est qu'il faut aller à la source. Quiconque a soif doit aller à la source. Je me souviens que pour boire, lorsque je me trouvais dans mon petit village d'Espagne, chez ma grand-mère, là-bas, Sequeliños s'appelle ce village, eh bien, il y avait la source. À l'époque, il fallait aller à la source si on voulait boire un coup. Il n'y avait pas encore le robinet. Alors, il fallait faire des efforts. Ma grand-mère me donnait un seau qui était plus grand que moi, et à 11 ans, il était plutôt la moitié de moi, et je devais aller à la source chercher l'eau si je voulais boire. Et nous ramenions l'eau des fois pour une demi-journée ou la journée, ça dépendait. Une eau qui était fraîche, une eau qui désaltérait, une eau qui avait une bonne saveur parce que c'était l'eau de source. Mais il fallait aller à la source, il fallait y aller, il fallait faire la démarche de marcher et de faire des efforts pour aller à la source et y boire. Et c'est là aussi une image que Jésus nous donne. Quiconque a soif doit venir à moi et boire. Il s'agit d'une décision de foi. Il s'agit d'un pas qu'il faut faire. Il s'agit d'une étape à franchir, d'une détermination que nous devons avoir. Et c'est un appel qu'il nous lance, un appel à celui qui est dans la confusion, un appel à celui ou celle qui est dans l'épuisement, un appel à celui qui est dans le découragement, dans la lassitude. Si tu es dans tout cela, viens à la source. Arrête de tourner en rond. Viens à la source. Viens à celui qui t'appelle. Pourquoi tourner en rond et choisir d'autres destinations? Pourquoi passer par d'autres moyens? Pourquoi passer par des intermédiaires? Rien de ce que nous choisirons ne nous apportera la satisfaction pleine et entière. Rien de ce que nous choisirons ne rassasiera notre âme, ne désaltérera cette âme altérée, desséchée. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et promesse, et je vous donnerai du repos. » Connais-tu ce repos de l'âme? Connais-tu cette paix intérieure? Connais-tu cette paix qui surpasse toute intelligence, tout entendement, et qui gardera tes pensées en Jésus? Si ce n'est pas le cas, c'est parce que tu n'es pas venu vraiment à Jésus. Tu n'as pas approfondi ta relation avec lui, mais il t'attend, il t'appelle encore ce matin pour que tu viennes complètement à lui et que tu te décharges de tout souci, de toute fatigue, de tout fardeau. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Connais-tu ce repos de l'âme, cette tranquillité d'esprit, cette paix surnaturelle que Dieu donne en Jésus-Christ? Si tel n'est pas le cas, viens à Jésus. Il est la seule source de paix, la seule source de tranquillité, la seule source de joie, la seule source de satisfaction, la seule source de plénitude. Nous en sommes à devoir évangéliser les chrétiens, frères et sœurs, aujourd'hui. Il est celui qui fait jaillir l'eau. C'est Jésus qui fait jaillir l'eau. On ne trouve cette vie régénérante, guérissante, purificatrice dans aucune autre religion, aucune église, aucun groupe en particulier. Mais on ne trouve cette eau régénérante qu'en Jésus. Comme on trouve en lui le salut éternel de l'âme, eh bien on trouve la satisfaction de l'âme en lui également. Il est la source. Et si tu viens à qui que ce soit d'autre, à quoi que ce soit d'autre, sauf Jésus, tu trouveras sur ton chemin des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Tu vas faire des pratiques, tu vas faire tel ou tel choix, mais au fur et à mesure de ton chemin, il va te sembler que ça y est, t'as trouvé, que ça te satisfait, mais comme une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau, où il y a plein de trous, eh bien l'eau que tu croyais trouver, elle s'en va. Et à nouveau, vient la sécheresse, vient l'aridité, et tu t'aperçois que tu n'as pas trouvé le vrai chemin. Tu n'as pas trouvé la vraie satisfaction de l'âme. Et c'est normal. parce qu'elle se trouve uniquement dans celui qui est l'arbre de vie, en celui qui est l'auteur et le créateur de la véritable vie. Nous serons déçus si nous allons vers ces citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. On ne vient pas à une église, on ne vient pas à un pasteur, on ne vient pas à un chrétien, on ne vient pas à une religion, on vient à Jésus. Jésus a dit « Suis-moi ». Il n'a pas dit « Suis Pierre », parce que ça serait le premier pape. C'est même pas vrai d'ailleurs. Il n'a pas dit « Suis Paul », il a dit « Suis-moi ». Et l'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Jésus-Christ ». C'est Jésus que nous devons suivre. Jésus était déjà dans l'Ancien Testament symbolisé par ce rocher qui était frappé dans le désert et d'où l'eau a jailli. Le psaume 78, versets 15 et 16 nous dit « Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. » Déjà, cette pensée du fleuve, cette pensée de la source, cette pensée de l'eau vive est dans ces temps où le rocher a été fendu, où il était brisé. Et Jésus est ce rocher qui était brisé pour que nous soyons rassasiés. Il est mort sur la croix, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, dit la parole de Dieu. Pourquoi ? Pour que nous ayons la vie abondante en lui. Pour que nous soyons bénéfice de l'œuvre de la croix et que nous puissions bénéficier de ce qu'il nous a acquis en mourant pour nous sur cette croix et en ressuscitant d'entre les morts. Il nous faut donc venir et boire. Jésus nous invite à venir à lui et ensuite à boire. Il y a cet acte de foi, cette démonstration, cette détermination pour satisfaire enfin notre âme asséchée par le désert. Il y a un bel exemple, une belle illustration, c'est cette femme samaritaine dont le cœur n'avait pas été rassasié, dont l'âme n'avait pas été satisfaite par ses 5 mariages. Peut-être comme beaucoup de femmes aujourd'hui, elle avait cru trouver le bonheur dans un homme. Vous avez beaucoup de jeunes filles, des midinettes, des ados, qui croient qu'elles vont trouver le bonheur dans les mecs. Et puis l'autre, lui, le gars, il va dire, c'est les meufs, moi, qui m'intéressent. Et il croit trouver le bonheur dans un autre être humain, mais malheureusement, ce n'est pas possible de trouver son bonheur uniquement dans un autre être humain. Et cette femme a été mariée 5 fois. 5 fois, elle a été divorcée. Et son compagnon du moment avec qui elle était, n'était même pas son mari, parce que je pense qu'elle en avait soupé du mariage et qu'elle avait fait un autre choix, se disant « il me faut quelqu'un à côté de moi, mais bon, ça s'arrête là ». Et sans aucun doute, il est évident qu'elle était toujours déçue et son âme n'était pas satisfaite. Elle va rencontrer sur son chemin Jésus, qui va lui donner une parole de connaissance sur sa vie, qui va lui dire sa vie, qui va lire sa vie dans son cœur et qui va lui donner ces paroles prophétiques qui vont éveiller son intérêt. Et elle va rencontrer Jésus, qui est celui qui donne l'eau, non pas l'eau du puits dans lequel elle était en train de puiser, qu'elle supposait être le puits de Jacob. Elle pensait que cette eau avait une valeur sacrée, mais non, Jésus va lui donner l'eau de la vie éternelle. Il va dire « Quiconque boit de cette eau aura encore soif ». Il parlait de l'eau du puits de Jacob. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » As-tu vraiment rencontré Jésus ? Parce que si nous avons rencontré Jésus, frères et sœurs, vous avez lu ce que j'ai lu ou vous avez juste survolé ? Qu'est-ce qui est ressorti de ce texte ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Qu'est-ce qui est le plus important dans ce texte ? Après que Jésus ait dit juste que c'est en lui et que c'est de cette eau à lui qu'on aura plus soif, qu'est-ce qui est dit ? Qu'est-ce qui est important dans ce verset ? Qu'est-ce qui frappe nos regards ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ? Ouais, mais avant, pour ce qui nous concerne sur terre déjà. Non, c'est écrit dans le texte. Il n'aura jamais soif. Est-ce que tu as soif ce matin ? Si tu as encore soif, que tu n'es pas désaltéré, c'est que tu n'as pas rencontré véritablement Jésus d'une manière profonde. C'est ce que ce texte dit. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Un croyant, un disciple de Jésus, il n'a plus soif dans le sens de la satisfaction. Rien d'autre ne le satisfait plus que Jésus. Et quand il a soif, ce n'est pas la même soif, c'est une soif de plus de Jésus. C'est différent. Ce n'est pas de l'insatisfaction. Celui qui a vraiment rencontré Jésus n'est pas insatisfait, n'est pas frustré. Il n'est pas dans cette soif ardente, mais il en réclame au contraire davantage. Et c'est pour ça qu'il n'aura jamais soif. Et Jésus poursuit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, en lui, à l'intérieur, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est une vie durable, une satisfaction durable, une soif complètement étanchée jusque dans l'éternité. Alors venons à lui ce matin, à lui, uniquement à lui, accrochons-nous à lui, attachons-nous à lui, crions notre besoin à Jésus, crions notre souffrance à Jésus, laissons-le pénétrer une fois pour toutes dans le fond de notre âme, dans le fond de notre être intime, pour qu'il agisse, pour qu'il nous guérisse, pour qu'il nous purifie, pour qu'il déracine ce qui doit l'être, pour qu'il défriche notre âme et pour qu'il construise et plante ce qui est de son royaume. Alors, qu'apporte l'eau de la vie ? L'eau, elle régénère. Quand votre jardin est asséché par manque d'eau, qu'est-ce que vous faites ? Vous l'arrosez. Et qu'est-ce qu'il se passe ? En général, il commence à se régénérer. Le psaume 103, verset 5, nous dit « Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. » Et là, c'est un vieillard qui parle. Même si on est âgé, la parole de Dieu nous dit qu'il remplit de bienfaits nos vieux jours et qu'il nous donne une nouvelle jeunesse et nous donne la force de l'aigle qui s'envole. Parce que spirituellement, intérieurement, Dieu nous renouvelle quand nous avons cette vie qui régénère, cette vie impérissable, cette vie incorruptible. Notre être extérieur dépérit, dit l'apôtre Paul, et nous le voyons tous les jours, hein. Mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est ce que dit ce psaume. Il me donne une nouvelle jeunesse. Et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Vous savez que l'aigle, il a plusieurs vies. Hein. Il a son bec à un moment donné. Eh bien, il est vieux. Il ne fonctionne plus correctement. Et la mort guette l'aigle. Alors, il y a un processus qui se passe. Il vient et il fond vers le rocher. Et il vient casser son bec sur le rocher. Le rocher qui nous parle de Christ. Il casse son bec. Il vient se briser sur le rocher. Et un nouveau bec va remplacer l'ancien. C'est comme une nouvelle naissance. C'est comme un renouveau. Et Dieu nous appelle à ce renouveau permanent, à ce renouvellement permanent. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Si Jésus nous remplit de son esprit, que nous sommes gouvernés par Christ, chaque jour nous allons nous sentir régénérés, voire rajeunis comme l'aigle, comme il est écrit si poétiquement. Et même si le corps physique s'use comme un vieux vêtement, eh bien, chaque jour, notre être intérieur se renouvelle, rajeunit, à cause de la régénération permanente que produit l'eau de la vie du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous croyons cela ce matin ? Est-ce que nous sommes prêts à venir à Jésus pour recevoir cette eau de la vie et être enfin délivrés d'une vie insipide, d'une vie fade, d'une vie chrétienne qui ne dit pas son nom, une vie qui n'est pas celle que Dieu veut qu'on vive. Il en va de notre âme, il en va de nos émotions les plus intimes, de notre esprit, de notre cœur, de nos pensées et du très fond de notre être au fond. Mais ces eaux, elles viennent régénérer. Ces eaux, elles viennent apporter la vie. Et dans la vie, il y a la guérison. Dans la vie, il y a le renouvellement. Dans la vie, il y a la régénération. Dans la vie, il y a la nouvelle naissance. Et cette eau, elle satisfait pleinement l'âme. Vous savez, quand on a soif et qu'on boit, qu'est-ce qui se passe ? On n'a plus soif, on est rassasié. Il y a un moment où on peut boire beaucoup. Lorsque j'étais aux vendanges, eh bien, il fallait qu'on entame les bouteilles. On ne pouvait pas boire à plusieurs cette fois-ci dans la même bouteille. Hein. Alors, on prenait une grande bouteille, mais c'était 1,5 litre. Ben, fallait boire 1,5 litre. Vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout, on ne peut pas gaspiller l'eau. Alors, je me suis vu boire 1,5 litre comme ça. Glou, 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 1 litre. Après, je me suis arrêté. J'ai attendu 2 minutes, puis après j'ai rebu les 50 centilitres. Mais alors, quand vous avez fini, en pleine chaleur comme ça, on est rassasié, on est satisfait. On n'a plus soif, on n'a plus soif. Notre soif finit par être satisfaite. Il en va de même quand on vient à Jésus. Notre soif est satisfaite. Alors ce matin, es-tu satisfait ? Si tel n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas encore venu profondément à Jésus, dans une relation intime avec lui. Peut-être es-tu venu uniquement à son enseignement. Peut-être es-tu venu seulement à la religion chrétienne. Mais il t'appelle à venir à lui et à devenir son disciple. Et il veut devenir aussi notre ami dans l'intimité d'une relation extraordinaire, vivifiante, puissante, qui n'existe que quand c'est avec lui qu'on l'a. Il veut t'apporter la satisfaction que la Samaritaine n'avait jamais connue auparavant et qu'elle va connaître lors de cette glorieuse rencontre avec le Christ au puits de Jacob, au puits de Sichar. Sans eau, nous savons qu'il n'y a pas de vie. L'eau est nécessaire pour la vie. Il y a plus d'eau sur la terre que de terre. On le voit quand on fait tourner le globe. Alors il nous faut cette eau pour que la mort spirituelle ne reprenne pas ses droits. Avons-nous laissé une situation nous faire glisser en arrière de sorte que nous sommes dans la peur, dans la crainte, dans la souffrance intérieure, un blocage spirituel, des ténèbres peut-être qui épaississent notre compréhension des choses, comme si un voile se reformait sur notre esprit et nous empêchait de voir de la clarté, d'avoir de la clarté sur notre situation, des liens émotionnels peut-être nous tiennent encore. Alors nous devons revenir à Jésus, qui est la vie, tout simplement, tel que nous sommes. Et parfois même, il faut se repentir et demander pardon au Seigneur de rester comme ça et dire « Seigneur, change-moi, je veux faire volte-face, je veux faire demi-tour par rapport à mes décisions anciennes, par rapport à mes attitudes anciennes. » C'est ça la repentance. C'est pas dire seulement « Pardon Seigneur », c'est faire ce qu'il dit et faire demi-tour et choisir la vie pour vivre et non la mort pour végéter. Demandons-lui pardon, repentons-nous et venons et buvons à la source pour être remplis, satisfaits, rassasiés. Qu'est-ce que cette vie ? C'est la vie et c'est la plénitude du Saint-Esprit. Jésus a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Ce n'est pas une puissance, ce n'est pas un agent influent. C'est la troisième personne de la Trinité. C'est Dieu lui-même qui vient et qui intervient pour que celui qui croit en Christ naisse de nouveau. C'est-à-dire qu'il soit régénéré, reconnecté une fois pour toutes à Dieu, pour qu'il ait une relation avec Dieu dans la prière, dans un dialogue de tous les jours. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir ce dialogue, c'est parce que tu n'es pas encore régénéré. Celui ou celle qui est en Christ, il a la possibilité pour la première fois de sa vie de faire une réelle prière, c'est-à-dire un dialogue avec Dieu, d'établir cette relation avec Dieu dans ce dialogue qu'est la prière. Et c'est quelque chose de permanent, ça devient une habitude de vie, ça devient un pli. Et tout cela est possible par cette régénération, par cette nouvelle naissance. Celui qui naît de nouveau, il reçoit la vie de Dieu, il reçoit la pensée de Christ, il reçoit une direction de Dieu dans sa vie, il est dirigé, il y a un gouvernail d'un seul coup qui est là, parce que Christ prend les rênes de notre vie et il commence à nous diriger dans notre vie, à nous dire ce que nous devons faire, comment faire le ménage dans notre vie. Comment, entreprendre notre vie et comment même la réussir, au fond. Nous ne sommes plus sans boussole, mais nous sommes dirigés par lui et par sa parole. Sa vie, elle est faite, elle est donnée pour nous envahir dans tous les recoins de notre être. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Pensez que cette eau doit envahir votre être. Tout entier doit même faire part, vous devez même faire partie intégrante de cette eau. Vous devez devenir cette eau du ciel. L'eau que Jésus donne par son Saint-Esprit, c'est la vie du ciel, c'est la vie même de Jésus, c'est la vie même du Saint-Esprit qui a ressuscité d'entre les morts Jésus-Christ. Et cette vie, elle doit régner en nous. Et nous devons être cette vie, nous-mêmes, au point que de nos entrailles, elle va jaillir, dit Jésus. S'il fait habiter sa vie en tous, s'il est celui qui fait tout en tous, cette vie, nous en devenons partie intégrante, de sorte qu'elle sort aussi de nous, de nos entrailles, dit la parole de Dieu, c'est-à-dire de nos émotions, de nos sentiments, de notre volonté, de notre intelligence même. Elle va jaillir, car elle fait ensuite partie de nous, et nous sommes alors une bénédiction pour les autres, sans quoi nous ne sommes qu'une momie desséchée, inerte, figé, sans vie. Le croyez-vous ? Alors, conclusion, ce matin, il n'y en a pas 36. Il nous faut venir à Jésus, et recevoir cette vie-là et boire. Il veut nous guérir dans nos émotions. Il veut te guérir dans tes émotions. Il veut te guérir d'un passé douloureux. Il veut te guérir des paroles qui ont pu te blesser ou te marquer ou même te conditionner. Peut-être es-tu lié parce qu'il y a des paroles de bénédiction qui bénissent, mais il y a aussi des paroles de malédiction qui maudissent, qui font du mal et qui peuvent être destructrices et lier une personne au point que celle-ci, eh bien, ne peut jamais voir la réalisation de ses espérances, de ses rêves. Elle ne peut pas sortir de ses ornières. Elle est dans une dépendance émotionnelle, ce qu'on appelle un lien de l'âme. Alors il se peut même qu'une ancienne relation empoisonne encore notre vie et que nous n'ayons pas donné cela au Seigneur. Frères et sœurs, je vous encourage à tout donner au Seigneur. Même ce qui vous semble sombre, même ce qui vous semble honteux, donnez tout au Seigneur pour qu'il purifie, pour qu'il guérisse, pour qu'il restaure et que cette vie vraiment vous habite à un point tel qu'elle va sortir de vous ensuite pour être en bénédiction aux autres. Tant qu'on n'est pas guéri, tant qu'on n'est pas restauré, tant qu'on n'est pas renouvelé, on ne peut pas être en bénédiction dans ce domaine à d'autres. Il nous faut être nous-mêmes guéris par le Seigneur. Et il nous faut arrêter d'être insipides, d'être fades. Et vous savez, quand une assemblée est dans cette mouvance de l'esprit, dans cette guérison, dans cette restauration, la louange, elle se propulse à vitesse grand V. Il n'y a plus besoin de tirer. Il n'y a plus besoin de tirer comme si on tirait des boulets. Il n'y a plus besoin d'essayer de fabriquer une ambiance. Tout vient spontanément parce que la guérison est là et parce que les promesses de Dieu sont réalisées. Une seule condition, il n'y a rien à payer ce matin. C'est bizarre, hein, chez nous. On n'a pas beaucoup de monde, pourtant tout est gratuit. Vous allez à des spectacles, c'est payant, il y a du monde. Vous allez au match de foot, c'est payant, il y a du monde. À l'église, ce n'est pas payant. La bénédiction est gratuite. Il n'y a personne. Quel paradoxe. Nous avons besoin, eh bien, de venir à Jésus, venir à lui, venir à Christ pour être rassasiés. Amen.